Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans les explications données par les Pères de l'Église sur l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 2, verset 9. Donc, nous sommes en train de commenter la bonne nouvelle qui est arrivée au monde avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en sommes sur le polycopier à la page 20, polycopier qui contient les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc. Donc, nous en sommes à l'annonce des anges qui sont venus voir les bergers juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem. Je vous rappelle les deux derniers versets que nous avons commentés. Marie enfanta son fils premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Je vous rappelle cette phrase très importante que j'ai déjà longuement commentée. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc cette hôtellerie, c'est aussi notre âme. Veillons à ce que notre Seigneur Jésus-Christ ait toujours de la place chez nous. C'est évident que si j'ai le malheur d'avoir commis une faute grave, il n'y a plus de place pour notre Seigneur dans mon âme, dans le sens que la porte de mon âme est fermée à double tour. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un voleur, il ne va pas rentrer chez moi à coups de pied de biche. Eh bien, il est évident que si je ferme la porte de mon âme à double tour par le péché mortel, notre Seigneur Jésus-Christ attend la porte que je rouvre la porte. Donc, nous en sommes à la page 20 sur le polycopier, versets 9 et 10 du chapitre 2 de Saint-Luc. Voici qu'un ange du Seigneur apparut au berger. Et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux, ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, « Ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ notre Seigneur. » Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. Donc c'est l'ange Gabriel qui est venu avertir les bergers à la grotte où tout respire pauvreté et simplicité. Les bergers, pauvres et simples, plaisent donc beaucoup plus à Dieu qu'à l'issue de la façon traditionnelle de vivre des anciens patriarches. La tradition a gardé le nom des bergers, c'était trois. Jacob, Isaac et Joseph. Saint Jacob, Saint Isaac, Saint Joseph. Ils sont canonisés par l'Église. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller dans le livre sur les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume, un excellent historien du 19e siècle. Dans le premier volume, il y a tout un passage où il explique justement les traditions de l'Église concernant les trois bergers qui ont été canonisés par l'Église. Ils sont tous après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ et ils sont encore une fois canonisés par l'Église. Je vous donne ici certains passages de pères de l'Église ou même certains passages qu'on trouve dans les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume. Je prends les passages clés. Les bergers sont les pasteurs des peuples. Un devoir vous est imposé auquel se rapportent tous les autres, celui de veiller nuit et jour à la garde de vos troupeaux. Les conduire dans les pâturages où ils trouvent la saine nourriture de la vérité, les éloigner avec un soin jaloux des citernes fêlées qui ne contiennent que les eaux fétides de l'erreur et de la corruption. Donc nous représentons aussi ces bergers. Nous aussi, nous sommes le berger de notre âme. Nous avons un troupeau dont nous devons nous occuper. Toutes les ânes dont nous avons la charge représentent nos brebis. Nous devons nous en occuper, veiller à ce que les loups ne puissent pas atteindre ces animaux dont nous avons la charge. C'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. On voit à quel point dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ aime cette comparaison avec le berger. Il est lui-même le berger qui s'occupe de ces bergers, rappelez-vous toutes les de ces brebis, rappelez-vous ces comparaisons. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est comme un berger qui a 100 brebis et qui va compter toutes ces brebis tous les soirs pour vérifier qu'elles sont toutes dans la bergerie. S'il en trouve une qui est manquante, il lâche tout le monde, laisse les autres dans la bergerie pour aller trouver la brebis manquante. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il se félicite, car il y a plus de joie pour un pécheur qui fait pénitence, qui revient à Dieu, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. Et donc les bergers sont aussi représentent aussi les pas simplement chacun d'entre nous par rapport à notre âme, mais les bergers représentent aussi le travail des évêques, qui sont les pasteurs des peuples. Et dit Monseigneur Gaume, vous êtes fait pour le peuple et non pas pour vous. Donc la tradition est là pour nous dire que ces trois bergers donc furent saints. Ils étaient au nombre de trois. Alors, je vous donne d'autres passages. La tradition nous dit aussi qu'ils étaient trois de compagnie, un vieillard, un homme fait et un adolescent, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Avec les bergers, il y avait donc à la crèche, selon la tradition, le bœuf et l'âne. Le bœuf a connu son maître et l'âne la crèche de son seigneur. Mais nous, malheureusement, nous avons un cœur plus dur que le cœur du bœuf et de l'âne, et souvent nous refusons de venir à la crèche. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les pères de l'Église expliquent que ces deux animaux que les bergers ont trouvés à la crèche, à savoir le bœuf et l'âne, représentent les juifs et les gentils, deux peuples au milieu desquels le divin enfant venait se placer pour les unir et n'en former qu'une seule société. Alors, l'âne, d'après la tradition, avait servi de monture à la Sainte Vierge pour venir de Nazareth à Bethléem, et le bœuf avait été amené par Saint Joseph pour payer le tribut de César, d'après certains pères. Alors, ces bergers, encore une fois d'après la tradition, cachèrent avec soin la Sainte Famille en attendant que le Père éternel lui-même pourvût la sûreté de son Fils en emmenant la Sainte Famille jusqu'en Égypte. Mais au début, ils ont été protégés par les trois rois, les trois bergers. Donc, selon une tradition, dit Monseigneur Gaume, encore vivante à Bethléem, la Sainte Vierge, pour échapper à Hérode, quitta sa première retraite et chercha un refuge dans la grotte d'un rocher voisin de Bethléem. Et là, elle vécut en sûreté sous la protection des bergers. Et que Marie était venue dans cette grotte souvent en ce lieu pour allaiter son divin enfant. Les corps des trois bergers reposent maintenant à Salamanque, en Espagne. Au début, ils sont restés sur place, en Palestine, où ils reposèrent jusqu'au milieu du 9e siècle, dans une église qui avait été bâtie par Sainte Hélène. Après la chute de l'église qui avait été construite par Sainte Hélène, Les corps de saint berger furent transportés d'abord à Jérusalem, où ils restèrent jusqu'au vers l'an 960. Les historiens espagnols, à la tête desquels paraît le savant archevêque de Tarragone Antonio Pérez, affirment qu'à cette époque, les précieux corps furent apportés en Espagne par un chevalier espagnol et déposés dans la ville de Ledesma, l'ancienne Bletissa, voisine de Salamanque. Donc c'est là où ils sont actuellement. Donc il faut souvent invoquer ces trois saints canonisés par l'Église, Jacob, Isaac et Joseph. On n'y pense pas souvent parce que c'est assez peu connu. Donc la vertu particulière et principale de ces bergers est évidemment la vertu d'humilité, la simplicité, et l'humilité étant les deux premières vertus de ces saints bergers. Donc, il y a une belle phrase ici des pères. Au prophète, il fut donné de parler au cœur de Jérusalem. Et au berger, il fut donné de parler au cœur de Marie. Donc, il y a eu un rapport tout particulier entre la très sainte Vierge Marie et ses trois bergers. Sainte Vierge n'ayant pas oublié la protection qu'elle avait reçue de ces trois bergers. Donc c'est la raison pour laquelle aussi les premiers représentants de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament sont des bergers. Les patriarches étaient pratiquement tous des bergers, c'était des nomades, et ils gardaient leurs troupeaux, ils avaient des troupeaux assez considérables, et ils gardaient leurs troupeaux, c'était leur façon de vivre. Donc les divins mystères sont d'abord révélés aux bergers, au berger des moutons raisonnables que sont les fidèles, afin de leur enseigner que le Christ est le bon berger et l'agneau de Dieu. C'est une expression que notre Seigneur utilise souvent dans l'Évangile. Je suis le bon pasteur, je suis le bon berger, et les brebis me connaissent. Il connaît chaque brebis par leur nom, et les mène dans les bons pâturages, en les protégeant contre le loup, et les empêchant de brouter des herbes vénéneuses ou empoisonnées. Les pères insistent sur le fait que les âmes que nous sommes devons être les moutons raisonnables du berger qui est le bon berger, du berger supérieur qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, est le berger de son troupeau, eh bien il a des bergers délégués. Ses premiers bergers délégués sont les successeurs des apôtres, à savoir les évêques, puis ensuite les successeurs des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir les prêtres. Donc le prêtre est berger de ses fidèles. Donc le Christ, disent les pères de l'Église, tout ça c'est page 20 sur le polycopier, le Christ se révèle et se communique à ceux qui surveillent leurs pensées et leurs actions comme les bergers surveillent les troupeaux. Un troupeau laissé à lui-même va perdre son entité, va perdre son unité. Et donc le berger, un des rôles du berger, c'est justement de surveiller le troupeau pour que le troupeau reste uni comme une masse pour lutter plus efficacement contre les ennemis du troupeau, à savoir surtout les loups. Donc l'apparition de l'ange au berger qui veillait sur le troupeau, la clarté divine qui les environne, qui les environna, nous apprennent que ceux, disent les pères, qui gouvernent avec sollicitude les brebis fidèles qui leur sont confiées, sont admis de préférence à tous les autres à contempler les mystères les plus sublimes. Pourquoi ? Parce que les bergers sont les premiers contemplateurs, les premiers méditateurs en quelque sorte, les premières personnes à méditer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut reprendre cette image très belle des bergers qui sont devant la crèche et qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, qui voient un enfant nouveau-né, mais qui savent, de par l'annonce de l'ange, que cet enfant nouveau-né n'est pas un enfant comme les autres, qu'il est le Christ, le Seigneur. Donc nous aussi, nous devons être comme les bergers et apprendre à méditer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces pasteurs de troupeaux, ces bergers, représentent, disent les pères, les docteurs et les directeurs des âmes fidèles. La nuit pendant laquelle il veillait tour à tour sur leur troupeau figure les dangers des tentations contre lesquelles ils se battent sans cesse, sans préservant eux-mêmes et les âmes qui leur sont soumises. C'est pour ça que le berger doit être ces dangers, si vous voulez, les bergers doivent être de veille jour et nuit, parce que le loup peut arriver n'importe quand. C'est l'image du fait que nous devrions nous aussi être de veille jour et nuit. Hein. Veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation, disait notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc ces bergers qui veillent jour et nuit pour protéger leur troupeau représentent la garde constante qu'une âme doit avoir sur elle-même pour empêcher le loup, à savoir le démon, de pénétrer dans cette âme. Surtout que le loup, nous prévient notre Seigneur Jésus-Christ, se revêt de peau de brebis. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans les paraboles qu'il donne aux apôtres. Je vous rappelle entre autres ce passage qu'on trouve dans Saint Matthieu chapitre 7. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou au chardon des figues? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ explique justement le rôle du berger de vérifier à ce que les fruits que nous consommons sont de bons fruits. Il y a trois sortes d'arbres. Il y a des arbres qui donnent des bons fruits, il y a des arbres qui donnent des mauvais fruits, il y a des arbres qui donnent pas de fruits du tout. Mais le rôle du berger, justement, c'est de vérifier que les brebis dont ils ont la charge ne vont manger que les bons produits. Les produits qui vont faire du bien à ces brebis, c'est-à-dire ces produits qui vont faire du bien à nos âmes. Donc malheur aux bergers infidèles, aux mercenaires. Notre Seigneur Jésus-Christ parle de ceux qui sont des mercenaires, qui ne sont pas des bons bergers, qui au lieu de garder les brebis du troupeau, dès qu'ils vont voir le loup, vont se sauver parce qu'ils sont des mercenaires. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est un bon berger, il n'est pas un mercenaire, il ne travaille pas pour l'argent, il travaille pour le bien des fidèles, pour le bien des âmes. C'est notre travail à nous, prêtres. Le prêtre, malheur au prêtre, qui est devenu un fonctionnaire et un mercenaire. C'est un peu, malheureusement, ce qui se passe autour de nous. Nous voyons constamment, surtout dans l'église de Vatican II, la plupart de ces faux prêtres sont devenus des mercenaires. Ils travaillent plus pour le bien des âmes. Alors, les anges eux-mêmes disent, les pères, les anges sont aussi comme des pasteurs chargés de diriger les choses humaines. On reconnaît le bon ange car il terrifie d'abord puis console, alors que le mauvais ange fait l'inverse pour nous tromper. Donc, toutes ces personnes qui vont venir, ces âmes, qui vont venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ, au début, juste après la naissance de notre Seigneur dans la crèche de Bethléem, représentent justement l'intégralité des créatures raisonnables qui doivent venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les premières créatures raisonnables qui vont venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ sont les anges, puis ensuite les hommes. Pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous les hommes, pas simplement pour les pauvres, comme raconte l'Église moderne aujourd'hui, qui parle que de l'Église des pauvres, l'Église des pauvres, l'Église des pauvres, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tout le monde, les pauvres et les riches. C'est pour ça qu'il y a d'abord les pauvres qui viennent, les trois bergers, mais après, vous aurez aussi les riches qui vont venir. Melchior, Gaspard et Balthazar, les trois rois mages. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous attend, c'est un peu ce qu'expliquent les pères, notre Seigneur Jésus-Christ nous attend dans cette grotte. Et dans cette grotte, il veut que nous baissions la tête pour y rentrer. L'entrée de la grotte, font remarquer les pères, est basse de plafond. Et donc il faut courber l'échine pour rentrer dans la grotte. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Rémy à Clovis au moment de son baptême en 496. « Courbe la tête, fière sycambre, adore ce que tu as adoré et brûle, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » Donc, première condition pour pouvoir rentrer dans la crèche avec les anges, avec les bergers et les rois mages, c'est de courber les chines, de pratiquer la vertu d'humilité. Et deuxième condition, c'est savoir se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Si je me tiens debout devant notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord je ne peux pas rentrer dans la grotte. Celui qui refuse de s'humilier ne peut pas pénétrer devant notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas passer par la porte de la grotte. Et deuxièmement, il faut savoir se mettre à genoux. C'est dans la mesure où on se met à genoux devant Dieu qu'on peut recevoir à ce moment-là des grâces, parce que le fait qu'on se mette à genoux devant lui ouvre la porte de notre âme. Donc le Christ, le mot Christ utilisé par Saint Luc au chapitre 2, verset 11, il est dit, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Donc ce Christ, le mot Christ représente, signifie le roi, le prêtre. En fait, cela veut dire loin du Seigneur, celui qui est oint par l'huile qui consacre. Et n'oublions pas que nous tous catholiques, nous sommes oints par l'huile. Immédiatement après le baptême, nous sommes oints, du verbe oindre, par l'huile du Saint-Crème, qui est l'huile de consécration. Pour ça que l'huile du Saint-Crème n'est pas utilisée au début du baptême, avant l'ablution, qui fait de nous des enfants de Dieu, mais à la fin du baptême. Car il faut attendre d'être consacré à Dieu par l'eau du baptême pour pouvoir recevoir cette consécration supplémentaire, à savoir les dons du Saint-Esprit que donne le Saint-Crème. Au début du baptême, il y a une première onction, mais cette fois-ci, qui n'est faite qu'avec l'huile des catéchumènes, qui est la même huile qui est utilisée par l'évêque pour oindre les doigts du prêtre, les mains, les paumes du prêtre, et lui donner ainsi le pouvoir de toucher le Saint-Sacrement. Versets 12 et 13 du chapitre 2 de Saint-Luc, vous reconnaîtrez ce sauveur à ce signe, vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Donc, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué que les pères de l'Église font une analogie, comparent les anges qui vont enserrer le petit corps de l'enfant Jésus tout bébé avec le linceul de Turin qui va recevoir son corps mort 33 ans plus tard. De la même façon, ils font une comparaison entre le bois de la crèche qui va recevoir l'enfant Jésus nouveau-né et le bois de la croix sur lequel ce même enfant devenu adulte 33 ans plus tard va être crucifié. Donc l'ange de la crèche sont au linceul de Turin ce que le bois de la crèche est au bois de la croix. Donc le premier avant du Christ est d'humilité, le second avant pour juger le monde sera de majesté. En fait, il y a trois étapes. La première étape de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la naissance dans l'humilité de la crèche de Bethléem. La deuxième étape sera le sommet du calvaire, à savoir la manifestation par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, du mystère de la rédemption, et enfin le jugement final, à la fin des temps, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra au même endroit, il reviendra à Jérusalem, c'est là où aura lieu le jugement général d'après la tradition des pères, et reviendra précisément avec le même signe de la croix. Donc on voit le bois de la croix à Bethléem pour la naissance, on retrouve ce bois sur la croix du calvaire, on va retrouver ce signe de la croix de bois du calvaire qui va venir victorieusement dans le ciel pour la résurrection générale et le jugement général à la fin des temps. Donc, l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance, et l'escabeau qui va amener par le passage au Golgotha à la majesté de la résurrection générale et du jugement général à la fin des temps. Versets 14 et 18, nous avons ce magnifique Gloria qu'on chante à la messe, qu'on dit à la messe pratiquement tous les jours, sauf certains jours de pénitence où il n'y a pas de Gloria, pour les messes votives, il n'y a pas de Gloria. Voilà ce texte, verset 14. C'est le chant des anges, en fait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc c'est ce texte qui a été repris par le Gloria de la messe. Notez que les pères de l'Église insistent beaucoup là-dessus, que la paix n'est pas donnée à tous les hommes. La paix du Christ n'est pas donnée à tous les hommes, elle est donnée aux hommes de bonne volonté. Dans l'Église moderne, ils ont transformé évidemment ce texte en disant paix à tous les hommes. Non, c'est paix aux hommes de bonne volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire paix aux hommes qui cherchent Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se donne pas à tous les hommes. De volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ souhaite se donner à tous les hommes. Mais de volonté conséquente, notre Seigneur Jésus-Christ ne va se donner qu'aux hommes qui le cherchent. C'est-à-dire aux hommes qui cherchent Dieu d'une part, et d'autre part, qui vont enlever les obèques, qui vont enlever les obstacles. J'ai déjà expliqué, il faut ouvrir la porte de mon âme. Et j'ouvrirai la porte de mon âme par le sacrement de la pénitence. Donc si je cherche Dieu, je trouverai le chemin du confessionnal. Trouvant le chemin du confessionnal, je vais enlever l'obstacle, ouvrir la porte de mon âme. Et à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ peut rentrer dans mon âme parce que je vais devenir un homme de bonne volonté. Si au contraire, je maintiens la porte de mon âme fermée à double tour, et dans ce cas-là, je ne suis pas un homme de bonne volonté et je pourrai rien faire. Et notre Seigneur Jésus-Christ restera à la porte de mon âme et ne pourra pas rentrer parce que je n'ai pas ouvert la porte. Certes, pour ouvrir la porte de mon âme au bon Dieu, il faut déjà une grâce actuelle. N'oublions pas que je ne suis pas capable d'ouvrir la porte de mon âme au bon Dieu par moi-même. J'ai besoin d'une grâce. Donc ces grâces actuelles, Dieu peut les donner même à une âme qui vit dans un tas de péchés mortels. Il ne faut pas oublier ces choses-là, qui sont des choses oubliées dans le monde moderne. Souvent, les jeunes me disent « Oh, monsieur l'abbé, je vais commettre un péché mortel samedi soir avec les copains, mais j'irai me confesser dimanche. » Attention, pour pouvoir se confesser le dimanche suivant, il faut avoir reçu de cette grâce actuelle qui nous amène au confessionnal. Si je n'ai pas reçu cette grâce actuelle, que le bon Dieu n'est pas obligé de me donner, eh bien, je ne pourrais pas aller me confesser. Ou alors, j'irai me confesser sans contrition. Pour pouvoir se confesser, il faut d'abord être vivant, il faut avoir un prêtre, et il faut avoir reçu cette grâce actuelle qui m'amène au confessionnal. Il arriva que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, les bergers se disaient l'un à l'autre, « Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en grande hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. Et en le voyant, ils connurent la vérité de ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent admirèrent ce qui leur avait été raconté par les bergers. Donc les bergers, dès qu'ils auront quitté la Sainte Famille, vont commencer à prêcher notre Seigneur. Ils vont en parler à tous ceux qu'ils vont rencontrer dans la ville de Bethléem et autour. Ils vont commencer à devenir des missionnaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors passons à la page 21 sur le polycopier. Les pères de l'Église font remarquer qu'il ne peut y avoir de paix si la gloire de Dieu n'est pas assurée chez les hommes. Mais si les hommes cherchent la gloire mais méprisent la paix, ils perdront l'une et l'autre. Donc l'humilité amène à la paix de l'âme. L'orgueil amène à la perte de la paix. Oublier ce qui explique longuement Saint Ignace dans les exercices dits de Saint Ignace, exercice que la Sainte Vierge a donné à Saint Ignace au XVIe siècle. Les signes de la présence de Dieu dans une âme, c'est la paix, la joie, la lumière et l'amour du beau. Le premier signe, c'est la paix, qui est jointe à la joie. Au contraire, les signes de la présence du démon dans une âme, c'est d'abord la tristesse. La tristesse, la confusion, l'obscurité de l'âme et l'attraction vers les choses laides. Donc la paix de Dieu n'est pas pour tous les hommes, faut remarquer les pères de l'Église. C'est pour cela qu'il est bien dit que la paix est pour les hommes de bonne volonté. La paix n'est pas pour tous les hommes, mais seulement pour ceux de bonne volonté et qui aiment le nom de Dieu. Est-ce que vous cherchez Dieu ? Lorsqu'un ange s'adresse à quelqu'un qui cherche Dieu, il amène la paix avec lui. Lorsqu'au contraire, un ange va apparaître à quelqu'un qui lutte contre Dieu, l'ange va amener la confusion, la terreur dans cette âme. On voit très bien, par exemple, au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les anges, l'ange arrive pour avertir les bergers que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ notre Seigneur. Et cette annonce faite par les anges aux bergers va amener dans le cœur des bergers une joie profonde. Par contre, quand l'ange apparaît aux soldats qui gardent le tombeau 33 ans plus tard, au moment de la résurrection, au moment où l'ange arrive pour, du bout de son aile, déplacer la pierre qui fermait le tombeau où notre Seigneur Jésus-Christ est enfermé, on voit très bien les soldats romains qui sont là, ou les soldats juifs qui sont là, qui ne cherchent pas Dieu, en voyant l'ange, sont frappés de terreur. Ils tombent la face contre terre, complètement terrorisés. L'ange du Seigneur terrorise les âmes qui ne cherchent pas Dieu, mais donne la paix aux âmes qui le cherchent. Alors ici, une belle phrase des pères qu'on trouve à la page 21 sur le polycopier. Dieu a fait descendre les anges jusqu'à nous pour faire remonter ensuite l'homme jusqu'au ciel. Le ciel s'est fait terre pour relever les choses de la terre. Donc, rappelez-vous cette phrase de saint Augustin que je cite très souvent. Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. L'homme, Dieu descend à l'homme pour que l'homme puisse remonter vers Dieu. L'homme a quitté Dieu, s'est coupé le cordon ombilical qui le reliait à Dieu par le péché d'Adam et Ève. Et donc l'homme par lui-même est incapable de remonter vers Dieu. Il faut donc que Dieu se descende, condescende de se mettre au niveau de l'homme, descend jusqu'au niveau de l'homme, de devenir créature. Notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme est créé. Et notre Seigneur doit accepter de devenir créature littéralement pour pouvoir monter cette créature, elle a monté jusqu'à Dieu. Donc on peut dire que par son arrivée sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ va diviniser les hommes de bonne volonté, ceux qui le cherchent. Donc je répète cette phrase qui est très belle. Dieu a fait descendre des anges jusqu'à nous pour faire remonter ensuite l'homme jusqu'au ciel. Le ciel s'est fait terre pour relever les choses de la terre. Donc l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ va détruire l'orgueil du monde moderne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2020, il est tellement difficile de convertir les âmes. Pourquoi ? Parce que les âmes modernes sont pétrites d'orgueil. Elles sont pétrites d'orgueil et justement cet orgueil interdit l'entrée de mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme orgueilleux ne peut pas chercher Dieu, c'est impossible, parce qu'il veut se diviniser lui-même par ses propres forces. L'homme peut se diviniser, mais il ne peut pas se diviniser par ses propres forces. L'homme peut se diviniser en introduisant notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, dans son âme. Il faut donc qu'il ouvre la porte. Vous voyez ? Dans la mesure où j'accepte que notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans mon âme, je vais pouvoir monter les escaliers qui montent vers le ciel. Si au contraire je refuse que notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans mon âme, au lieu de monter vers le ciel, je vais prendre l'échelle qui descend vers l'enfer. Versets 19 et 20, deuxième chapitre de Saint-Luc, Marie conservait toutes ces choses, les passant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient entendu et selon ce qui leur avait été dit. Et on voit bien ici, encore une fois, l'importance de l'âme méditative. J'aime beaucoup cette phrase. Hein. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les repassant sans cesse. Donc la très sainte Vierge Marie, on le voit très bien ici, n'a pas tout compris. Elle ne pouvait pas encore tout comprendre. Et j'ai entendu certains traditionnalistes qui enseignent que la très sainte Vierge Marie avait la science infuse. C'est totalement faux. La très sainte Vierge Marie n'avait pas la science infuse. Si elle avait la science infuse, elle n'aurait pas dit à l'ange Gabriel « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Vous voyez ? Si elle avait eu la science infuse, elle n'aurait pas cherché son fils pendant 3 jours à Jérusalem quand à 12 ans. Il est resté à Jérusalem sans avertir ses parents. La très sainte Vierge Marie n'avait pas la science infuse. Elle n'a pas tout compris. Et il est évident que même pendant la passion, elle savait bien sûr que son fils était Dieu, elle savait que son fils ressusciterait d'entre les morts, mais elle a sans doute pas dû comprendre entièrement les raisons de la passion. Et elle va recevoir beaucoup plus de lumière au moment où elle va recevoir les dons du Saint-Esprit de façon plénière le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Vierge Marie est à la tête des apôtres, avec les apôtres, dans la maison haute de Jérusalem, et là, elle va recevoir le Saint-Esprit. Ici, il y a une très belle phrase des pères. Marie médite sur les mystères joyeux pour pouvoir mieux accepter les mystères douloureux et pouvoir mieux les expliquer à Saint-Luc, puisque Saint-Luc avait un rapport tout particulier avec la Sainte Vierge Marie. On voit très bien dans son évangile, cet évangile de Saint-Luc que nous commentons actuellement, l'importance de notre Sainte Vierge Marie, qui a plus de place dans l'évangile de Saint-Luc que dans les autres places, dans les autres évangiles. Donc, Marie médite sur les mystères joyeux pour accepter les mystères douloureux. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation au Temple, et Jésus recouvré au Temple à l'âge de 12 ans. Et bien tout ça prépare à l'arrivée de la Passion. L'agonie au Jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, Jésus qui porte sa croix, Jésus qui meurt sur la croix. Il y a un lien entre les deux. Donc il ne faut pas vouloir séparer les deux choses. Il ne faut pas s'arrêter au simple mystère joyeux. Des gens qui sont comme ça, ils veulent méditer que les mystères joyeux parce que c'est plus facile. Ils veulent pas passer par les mystères douloureux du calvaire. Ou il y a encore des gens qui veulent méditer que sur les mystères glorieux, s'ils croient déjà au ciel. Ils oublient de comprendre qu'on peut pas accéder aux mystères glorieux sans passer par les mystères douloureux. Et il y a plusieurs étapes pour monter à notre Seigneur Jésus-Christ. On va pas à notre Seigneur Jésus-Christ directement. Le catéchisme explique qu'il y a trois étapes. Il y a d'abord une voie de purification, la voie purgative, qui amène ensuite aux lumières du Saint-Esprit, qui illumine notre âme, c'est la voie illuminative, avant d'être unie à notre Seigneur Jésus-Christ par la voie mystique ou la voie unitive. Donc on passe de la voie purgative, purification, aux lumières du Saint-Esprit, voie illuminative, avant de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la voie mystique, la voie unitive. Donc personne, disent les pères, ne doit chercher Jésus-Christ avec négligence. Les bergers vont donc se hâter de venir pour voir celui qui habite dans les cieux, s'unissant à la terre pour la réconcilier avec les cieux. On voit très bien dans l'évangile, c'est clair, que lorsque l'ange est venu annoncer aux bergers cette grande nouvelle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les bergers vont littéralement tout lâcher, pour immédiatement aller adorer l'enfant Jésus et visiter la Sainte Famille. Vous voyez, c'est dans le texte, les bergers se disaient l'un à l'autre, passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et le texte dit, au verset 16, ils y allèrent en grande hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph, l'enfant couché dans une crèche, en grande hâte. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle, il ne faut pas traîner. Il faut venir en grande hâte. Il faut craindre la grâce qui passe et risque de ne pas repasser. Combien de personnes ont raté en quelque sorte l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ a frappé à la porte, il dormait. Rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Au soir du jeudi saint, les apôtres dormaient. Notre Seigneur Jésus-Christ va le leur reprocher. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc attention à être de garde. Gardez nos yeux ouverts, spirituellement parlant, pour que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vienne frapper à notre porte, nous soyons là pour ouvrir immédiatement à notre Seigneur et ne pas le faire attendre. Notre Seigneur n'attend pas. Il frappe à une porte. S'il voit qu'on n'ouvre pas, il va revenir éventuellement plus tard, mais il ne reste pas constamment à la porte. Il attend qu'on ouvre le guichet, puis la porte. Cet ineffable petit enfant, disent les pères, unissant étroitement ensemble les choses célestes par sa divinité avec les choses terrestres par son humanité, offre ainsi une admirable alliance entre ces deux natures intimement unies en lui-même. Rappelez-vous, l'enseignement de l'Église, donc notre Seigneur Jésus-Christ est une personne, il est le Fils de notre Sainte Vierge Marie, mais il est la deuxième personne de la Sainte Trinité avec une double nature, une nature humaine, il est parfaitement homme, et une nature divine, il est parfaitement Dieu. C'est pour cela quand notre Seigneur Jésus-Christ a le corps, le sang, l'âme et la divinité. Le corps, le sang et l'âme, c'est la partie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, la partie créée de notre Seigneur Jésus-Christ, et la nature divine représente la partie incréée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va rassembler en lui le créé et l'incréé, le fini et l'infini, l'humain et le divin, étant à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. C'est des choses que on a du mal à comprendre. J'ai remarqué ça plusieurs fois, je vous l'ai souvent déjà dit, mais ça m'a beaucoup frappé dans les discussions avec les fidèles. On voit comment certains fidèles ont beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des choses créées en notre Seigneur Jésus-Christ. Certains se hérissent contre ça en disant, mais vous n'avez pas le droit de dire, on me l'a reproché, j'ai entendu ça plusieurs fois, ils vont dire au prêtre, vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a quelque chose de créé en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, et donc il n'y a rien de créé en lui. Et il s'oublie complètement que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu, il est aussi homme. Dieu peut nous sauver. Mais Dieu ne peut pas mourir pour nous. Dieu étant impassible, étant un pur esprit, ne peut pas mourir. Et donc il a fallu que Dieu prenne une nature mortelle pour pouvoir mourir pour nous sur la croix. Dieu en tant que Dieu ne peut pas souffrir, c'est impossible. Donc il a fallu qu'il prenne une nature passible pour supporter la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc une double nature, il est parfaitement Dieu, il est aussi parfaitement homme, et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut nous sauver, mais c'est parce qu'il est homme qu'il peut mourir sur la croix et souffrir les affres de la passion. Je répète cette phrase magnifique des pères, cet ineffable petit enfant, unissant étroitement les choses célestes par sa divinité avec les choses terrestres par son humanité, offre ainsi une admirable alliance entre ces deux natures intimement unies en lui-même. C'est un peu la même chose allégoriquement pour nous. Dans l'homme, il y a aussi une partie divine et une partie humaine. Le fait qu'il y ait une partie divine en nous, la grâce sanctifiante, c'est la partie divine. La partie divine en nous n'élimine pas la partie humaine. C'est ça le problème. C'est que la grâce sanctifiante, elle va être unie à une partie humaine qui peut pécher malheureusement. Et donc, cette grâce qui rentre en nous par le baptême ne demande qu'une seule chose, c'est à rester fixé sur l'âme de façon définitive et éternelle. Mais malheureusement, si j'ai le malheur de commettre une faute grave, je vais détruire cette union qui existe entre la grâce sanctifiante et l'humanité. J'ai coupé cette union. Donc les pères concluent en disant, commençons par rejeter bien loin toutes les basses concupiscences de la chair, afin de nous élever sur l'aile des plus ardents désirs de notre cœur jusqu'à la Bethléem céleste, dire la maison du pain divin, où nous serons rendus dignes de voir régner sur le trône de Dieu le Père, celui que les bergers ont mérité de voir pleurant et gémissant dans la crèche. Donc, c'est toute la grandeur des bergers, donc, qui ont vu un enfant, mais qui ont vu dans cet enfant, pas simplement un homme, mais aussi un Dieu. On retrouve la même image lors de la visite qui va arriver des rois mages. Eux, ils vont même aller plus loin. Ils vont voir dans cet enfant pas simplement un homme et un dieu, mais aussi un roi. C'est pour ça qu'ils vont donner les trois dons, l'or au roi, l'encens à Dieu et la myrrhe à l'homme. Oui. Hein? Il faut accepter les trois choses dans notre Seigneur. Il est à la fois Dieu, à la fois homme, à la fois roi. Et malheureusement, beaucoup de catholiques refusent de reconnaître les trois couronnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre chef, comme homme, comme roi et comme Dieu. Et donc, il faut que je donne les trois choses. Dieu attend de chacun d'entre nous, à la fois la myrrhe avec la couronne pour l'homme, l'or pour la couronne pour le roi, et l'encens pour la couronne pour Dieu. Vous voyez, le problème, c'est que beaucoup d'hommes acceptent, c'est très clair dans le monde moderne, certains hommes vont accepter de reconnaître l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, ça y va bien, mais ils ne veulent pas reconnaître sa divinité. Ils ne veulent pas reconnaître son caractère royal. Ils ne veulent pas reconnaître le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que créateur et rédempteur, a un droit sur nous, parce qu'il est notre créateur et notre rédempteur. Donc il a droit de nous donner une loi. L'homme moderne est comme ça. Beaucoup d'hommes modernes acceptent l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les francs-maçons, par exemple, certains francs-maçons sont déistes. Ils reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à un certain niveau. Ils reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ comme grand architecte de l'univers sur un plan purement naturel et rationnel. Ils refusent de monter au-dessus. Ils acceptent notre Seigneur Jésus-Christ comme grand architecte de l'univers, mais ils le refusent, finalement. Ils refusent l'incarnation et la rédemption. Oui. Et donc, il faut tout accepter. Alors, il y a soit des gens qui refusent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est très fréquent aujourd'hui, même parmi les catholiques, soit il y a même des catholiques qui vont renier l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont être scandalisés par la passion de notre Seigneur, par exemple, et ils vont refuser les souffrances de la croix en disant c'est une boucherie, c'est pas possible qu'un Dieu ait accepté une humiliation pareille. Mais soit ceux qui vont refuser de donner la mire à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il refuse l'humanité en lui, soit ceux qui vont refuser de donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur chacun d'entre eux, soit il y a ceux qui vont refuser de donner l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il refuse de la divinité. Il faut accepter les trois choses. Il est roi, Dieu et homme, tout ensemble. Et ceci est, si vous voulez, résumé dans la formule que notre Seigneur Jésus-Christ est grand prêtre, souverain grand prêtre, il est grand prêtre comme homme, mais il est grand prêtre tout en étant en même temps Dieu. Donc les pasteurs du troupeau du Seigneur vont trouver à Bethléem la beauté virginale de l'Église, symbolisée par la très sainte Vierge Marie, la noble cohorte des docteurs spirituels, c'est-à-dire Saint Joseph, et l'humble avènement du Christ inscrit dans les pages de la Sainte Écriture, c'est-à-dire Jésus-Christ, enfant couché dans la crèche. Et c'est le symbole qui est caché derrière la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Donc Jésus-Christ, évidemment, le Dieu uni à l'humanité, le centre de notre adoration. Et pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ, ben, il faut passer par Marie. Et Marie représente l'Église catholique, ici. Et passer également par Joseph. Hein? Passer par Joseph pour arriver à Marie, et passer par Marie pour arriver au Christ. Et Joseph, Saint Joseph représente l'ensemble des docteurs spirituels qui élèvent l'âme vers son Fils putatif, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, on avance dans l'histoire de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, certainement certains des plus beaux passages de l'Écriture sainte. Le huitième jour, faute d'orthographe ici, faute de frappe que je dois corriger. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, que l'ange avait indiqué avant qu'il fût reçu dans le sein de sa mère. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de la circoncision. Il va accepter la circoncision par humiliation, par humilité, pour aussi bien montrer qu'il était totalement homme. La circoncision était un signe d'union à notre Seigneur Jésus-Christ qui devait arriver. C'était un acte de foi au Christ à venir pour l'Ancien Testament. La circoncision, donc, était l'équivalent du baptême pour les gens de l'Ancien Testament. Pour les femmes, la circoncision était remplacée par toutes les purifications légales, surtout les purifications après les couches, après la naissance d'un bébé. Et ces purifications symbolisaient aussi la circoncision des hommes et donc était symbole du baptême. Il est évident que la circoncision était nécessaire et ces purifications étaient nécessaires pour les Juifs de l'Ancien Testament, mais ne sont plus du tout nécessaires aujourd'hui puisque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. La circoncision et les purifications légales de l'Ancien Testament annonçaient notre Seigneur Jésus-Christ à venir. Donc les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi au Christ à venir. Mais puisque le Christ est maintenant venu, on ne peut plus accepter la circoncision, évidemment, et les purifications légales des Juifs, parce que si je les accepte, indirectement, je reconnais à ce moment-là que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, et donc la circoncision est toujours nécessaire. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est venu, et je ne donne donc plus le droit d'accepter ces purifications légales et la circoncision, qui n'étaient que pour l'Ancien Testament. Que pour l'Ancien Testament. Donc il y aurait certainement faute grave aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que ces purifications légales sont devenues mortifères aujourd'hui, justement parce que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Ce serait un péché gravissime pour un catholique d'utiliser ces purifications légales de l'Ancien Testament des Juifs. Alors, avançons. Donc le huitième jour, donc, il y a la circoncision. Cette circoncision était le signe et le stigmate du péché, disent les pères. On est en bas de la page 21. Par sa circoncision, le Christ s'est humilié à un degré encore plus grand que lors de sa nativité. Dans le premier cas, il a pris la forme d'un homme, dans le second, le caractère d'un pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris la nature humaine totale, en tout sauf le péché. Cependant, même s'il n'a pas pris le péché sur lui, puisque notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, évidemment, n'a pas l'ombre d'un péché, comme notre Sainte Vierge Marie elle-même n'a pas l'ombre d'un péché parce qu'elle est Immaculée Conception. Notre Seigneur Jésus-Christ est évidemment Immaculée Conception lui aussi, et donc il n'y a pas l'ombre d'un péché sur lui, mais il a voulu prendre les conséquences du péché. La mort, les souffrances sont les conséquences du péché. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pris sur lui les conséquences du péché des hommes, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas pu mourir sur la croix, parce que la mort est une conséquence du péché. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, ayant accepté les conséquences du péché, parce qu'il est venu pour rattraper justement le péché des hommes, notre Seigneur Jésus-Christ va accepter les souffrances indicibles de la passion et la mort sur la croix le vendredi saint. La circoncision du Christ est la figure de notre double circoncision et résurrection, celle du corps et celle de l'âme. La circoncision qui nous est demandée aujourd'hui n'est plus une circoncision physique, comme pour les Juifs de l'Ancien Testament, mais une circoncision spirituelle. Circoncision, ça veut dire coupure. C'est la coupure d'avec l'esprit du monde. Je dois être circoncis de l'esprit du monde moderne. Quel est l'esprit du monde moderne? L'esprit du monde moderne, c'est l'esprit des trois concupiscences. Concupiscence des yeux, du désir de tout avoir, de la chair, tous les péchés d'impureté et l'orgueil. On peut aussi résumer ces trois concupiscences qui amènent l'homme en enfer par les trois mots de la République des concupiscences, à savoir liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité correspondent aux trois concupiscences. Donc si j'accepte le poison de la Révolution, le poison de la République française, la liberté, l'égalité et fraternité, je tombe dans les trois concupiscences, ipso facto. On le voit très bien dans le monde moderne en France, c'est très très clair aujourd'hui. Parce que les gens, justement, adorent la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, ils tombent dans les trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil. Et c'est ce qui a provoqué aussi la catastrophe de l'Église de Vatican II. La Vatican II, c'est tout simplement, Mgr Lefebvre nous disait la démocratisation de l'Église, on pourrait dire, en utilisant un néologisme, en inventant un mot, c'est la républicanisation de l'Église. Puisque l'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est tout simplement l'introduction des trois concupiscences dans l'Église, et surtout l'introduction de la liberté, l'égalité et la fraternité. On voit très bien ça dans l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II est fondée sur trois éléments, à savoir la liberté religieuse, qui va correspondre à la liberté, l'écuménisme, qui va correspondre à l'égalité, et la collégialité, qui va correspondre à la fraternité. Et donc, un catholique qui veut conserver la foi se doit impérativement de fermer complètement la porte de son intelligence, de son cœur et de son âme, les portes de son intelligence, de son cœur et de son âme, à cet esprit révolutionnaire qui est synthétisé dans les trois mots de liberté, égalité et fraternité. On ne peut pas conserver la foi catholique en acceptant ces trois principes révolutionnaires. N'oubliez pas que c'est au nom de ces trois mots de liberté, d'égalité et de fraternité que la Révolution coupait la tête de tous les prêtres, tous les catholiques, avec le couperet de la guillotine. Et donc, si on ne peut pas accepter les trois mots de liberté, d'égalité et de fraternité, il est évident qu'on ne peut pas plus accepter les trois poisons de la liberté de conscience, de la collégialité et d'écuménisme. Et donc on voit très bien comment ces trois poisons, la liberté religieuse, l'écuménisme et la collégialité, ont fait entrer dans l'Église l'esprit du démon, l'esprit de la Révolution, l'esprit de la République laïque française. Un catholique ne peut pas, en tant que catholique, c'est absolument impossible. Il est incompatible
l'esprit du catholicisme est incompatible avec l'esprit de la République laïque. C'est le mot laïque qu'on ne peut pas accepter. C'est le laïcisme de la République qui rend la République française absolument incompatible avec la foi catholique. Et ça, ça a été malheureusement l'erreur gravissime. C'est une erreur politique, pas une erreur doctrinale. L'erreur du pape Léon XIII avec le ralliement de 1892. Parce que le pape Léon XIII, trompé par son entourage, a demandé aux catholiques français d'accepter la politique française, imprégnée pourtant du maçonnisme des Lumières, des philosophes des Lumières. Il s'est pas rendu compte, il s'en est rendu compte, il a regretté avant de mourir, manifestement, il s'en est rendu compte, c'était trop tard, le mal avait été fait, et il a demandé justement aux catholiques français d'accepter ces principes pour essayer de convertir en quelque sorte la République de l'intérieur. Et c'est l'inverse qui s'est fait, et on peut vraiment dire que la France catholique est morte en 1892. Le coup de grâce qui a tué l'Église catholique en France, c'est 1892, le ralliement de Léon XIII. Alors, ça n'empêche pas le fait que Léon XIII soit un vrai pape, puisqu'il n'est pas infaillible, attention, parce qu'il donne des mots d'ordre politique, ce qui était le cas avec le ralliement, c'était pas, et ça ne touchait pas la foi et les mœurs, mais le ralliement fait des catastrophes. Donc, la circoncision du Christ, c'est bien la figure de cette double circoncision que le bon Dieu attend de nous, circoncision du corps, circoncision de l'âme. Circoncision du corps, ça va passer par l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Pour lutter contre ce poison de la liberté, l'égalité, la fraternité révolutionnaire, pour lutter contre le poison des trois concupiscences des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté contre la concupiscence de la chair, obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Alors, les pères de l'Église, c'est très intéressant, en bas de la page 21, vont expliquer les raisons de la circoncision. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté cette humiliation de la circoncision? Bien, les pères vont expliquer. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, pour prouver sa nature humaine, prouver qu'il était vraiment homme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà des sectes qui ont très vite arrivé dans l'Église. Les manichéens, par exemple, manichéens, on les retrouve chez les cathares, les albigeois. Saint Augustin lui-même était tombé dans cette secte des manichéens. Donc les manichéens prétendaient que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un véritable corps, un corps fantôme. Également contre cette nature humaine, il y avait l'enseignement d'Apollinaire qui prétendait qu'il y avait un corps consubstantiel à la divinité. Et Valentin qui disait que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était venu du ciel directement. Donc le corps était éternel. Ce qui est faux, encore une fois, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est créé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va accepter d'être circoncis justement par humilité. Et pour prouver sa véritable nature humaine. Il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. C'est le danger devant notre Seigneur Jésus-Christ. Devant notre Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir suffisamment d'humilité pour accepter et son humanité et sa divinité. Il est deuxième personne à Sainte Trinité, mais en même temps parfaitement homme. Alors comment est-il possible pour Dieu d'être à la fois Dieu et homme ? C'est là où c'est le mystère de l'incarnation. Contre ce mystère de l'incarnation, qu'est-ce qu'il y a contre ce mystère de l'incarnation? Ben, il y a l'orgueil. L'orgueil empêche l'acceptation du mystère de l'incarnation. Et donc, les pères expliquent que cette circoncision n'avait pas simplement pour but de prouver la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps de montrer qu'il était bien, que notre Seigneur était bien fils de la race d'Abraham, de la tribu de David. Et pour sanctionner ainsi le rite institué par Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir, pour compléter l'Ancien Testament. Il était donc nécessaire pour lui d'accepter d'être circoncis pour aussi être accepté par les Juifs. Voilà, bon, nous allons arrêter là, puisque j'essaie de ne pas vous garder plus d'une heure. Et nous continuerons ce chapitre 2 de Saint Luc la prochaine fois, si Dieu veut. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Élie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.